Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et que vont décider les membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui votent ce 29 juillet pour le renouvellement ou non du régime de sanctions contre la Centrafrique? Nous en parlerons dans votre émission ce soir, mais d'abord décryptage sur la visite en France du ministre de la Défense d'Israël à la suite de l'affaire Pegasus.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Eric Goslan, bonjour.
Bonjour.
Franco-israélien, directeur d'International Council for Diplomacy and Dialogue. Le gouvernement israélien a dépêché à Paris mercredi son ministre de la Défense à la suite d'allégations d'espionnage du téléphone du président Macron par un logiciel israélien Pegasus. Benny Gantz a déclaré que son pays prenait au sérieux cette affaire. Comment appréciez-vous la démarche des autorités israéliennes?
Alors, il faut peut-être revenir à la base. La base, c'est la première base. Et ce qui n'a été pas dit, c'est que cette réunion était prévue depuis bien longtemps. D'ailleurs, Mme Parly, la ministre de la Défense, l'a dit dans sa déclaration, que c'était une réunion qui était prévue bien avant l'affaire Pegasus. Au niveau de l'affaire Pegasus, je pense que les autorités israéliennes le prennent très, très au sérieux. Et au point que Gantz a demandé dès le début une commission d'enquête pour les allégations d'utilisation de Pegasus. Alors pour lui, c'est des allégations, comment traduire ça, à mauvais escient, voilà, par certains États pour espionner des personnalités.
Le gouvernement israélien pouvait-il faire plus, aller au-delà de ces déclarations au regard de l'ampleur de la polémique? Et Paris était-il aussi dans une position d'exiger ou d'attendre plus d'Israël?
Alors, je pense que là, Israël va faire une enquête et, comme a dit le ministre de la Défense, va prendre des mesures appropriées. Parce qu'il ne veut surtout, une des déclarations du ministre de la Défense et du Premier ministre, c'est qu'ils ne veulent pas que cette affaire salisse l'ensemble de la cyberindustrie israélienne. Donc oui, je pense qu'ils vont faire beaucoup et il est tout à fait normal que lorsque le président de la République est écouté sur son téléphone, que la France demande des comptes à Israël. Donc je pense qu'il y a ce qu'il y a officiel des discussions, mais je suis presque certain que tous les services travaillent ensemble pour essayer de résoudre ce problème.
Justement, la ministre française des Armées, Florence Parly, a dit que la France souhaitait savoir quelles connaissances le gouvernement israélien avait des activités des clients de NSO et comment Israël comptait prévenir un détournement de ces outils hautement intrusifs. Pensez-vous que le ministre israélien de la Défense a donné des garanties ou des clarifications suffisante pour rassurer la France?
Alors, vu le communiqué de fin de discussion, je n'ai pas vu de mésentente ou de phrases comme la discussion a été tendue, donc je pense qu'il y a eu des garanties. Mais ce qu'a rappelé aussi le ministre de la Défense, c'est que la société NSO appartient à un groupe européen qui est Novalpina, qui est un fonds, une société de capital investissement luxembourgeoise. Donc c'est aussi un problème européen, comme le patron de NSO sont des Européens.
Mais la plupart des employés sont issus de services de renseignement israéliens, le Mossad.
Personne ne peut le savoir et personne ne peut le dire.
Peut-on s'attendre vraiment à des enquêtes neutres de la part du gouvernement israélien qui, pour certains, soutient ou tout au moins a connaissance des activités ou des clients de NSO?
Le gouvernement israélien a fait deux choses. Je ne sais pas si c'est lui qui est à l'origine, mais la société luxembourgeoise à qui appartient cette société a été dissoute.
Dans la foulée de l'affaire Pegasus?
Oui, oui. La société luxembourgeoise, bon, qui avait quelques petits problèmes, mais a été dissoute. Donc je pense que les Européens vont être très contents sur ce sujet.
Benny Gantz a également souligné que l'État d'Israël ne donnait des autorisations d'exportation à cas des États et seulement, a-t-il précisé, pour lutter contre le terrorisme et le crime. Peut-on s'attendre à des sanctions contre NSO ou à une plus grande vigilance de la part du gouvernement israélien des conditions de vente de ce logiciel Pegasus?
Alors, d'après ce qui a été dit à la Knesset, où des députés sont tout de suite, ont discuté, oui, il va y avoir des sanctions. Il y a énormément de tensions entre les deux patrons de NSO et le gouvernement israélien, parce que normalement, ce logiciel devait être vendu qu'à des États contre le terrorisme et contre tout ce qui est criminel. Et on se rend compte que bon, des États s'en sont servis pour autre chose. Le problème, c'est que lorsque vous vendez un logiciel à des personnes ou à des États, il est des fois difficile de savoir ce que les gens vont en faire.
Quelles sont les leçons qu'il faudrait, d'après vous, tirer de ce scandale Pegasus?
Je ne suis pas du tout bisounours et je suis sûr que d'autres logiciels comme Pegasus existent et d'autres existeront aussi. Mais il faut que les gouvernements se réunissent et discutent sur l'espionnage et sur ces logiciels. Il n'y a que cette solution, en sachant que, ça fait 2 ans, je pense, quand Angela Merkel était écoutée par les Américains. Tout le monde écoute tout le monde en ce moment.
Eric Gosselin, merci beaucoup.
Je vous remercie.
Franco-israélien, directeur de l'International Council for Diplomacy en dialogue.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et dans votre émission ce soir, nous allons parler de la Centrafrique avec le débat sur la levée ou non de l'embargo sur les armes. Que vont décider les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui votent justement ce 29 juillet pour le renouvellement ou pas du régime de sanctions contre ce pays d'Afrique centrale? Nous en débattons avec 3 invités. Roger Andialandi, bonsoir. Monsieur Andialandi, membre du bureau politique du MCU, Mouvement Cœurs Unis du président Touadéra. Vous êtes également, monsieur Andialandi, délégué Zone Europe. Vous m'entendez?
C'est cela, oui, tout à fait.
Merci beaucoup d'être avec nous. Et également, pour participer à cette émission, Aboubakar Sidik Ali, bonsoir. Monsieur Ali, vous m'entendez?
Bonsoir.
Porte-parole du mouvement FPRC de Noureddine Adam, groupe rebelle, et également porte-parole Afrique de la CPC de l'ancien président François Bozizé. Nous avons également Fridolin Ngoulou, qui est journaliste et directeur de Ubangi Média à Bangui. Monsieur Ngoulou, bonsoir.
Bonsoir à vous, madame.
Merci à tous les 3 d'être avec nous. Je commence avec vous, monsieur Andialandi. Dans quel état d'esprit attendez-vous le vote du Conseil de sécurité de ce 29 juillet sur le maintien ou non de ou la reconduction ou non des sanctions, du régime de sanctions contre votre pays?
Oh, je crois tel que les choses sont un peu parties. Puis quand on regarde les différentes positions, d'une part la Chine, la Russie, et puis donc l'Angola, qui préside
la CIRGL.
Voilà, c'est ça. Et d'autre part, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, etc.
Qui sont opposés
naturellement, oui. Oui. Donc il y a de fortes chances que l'embargo ne soit pas allégé d'une part et ça soit totalement reconduit. Il me semble que on risque d'aller dans ce sens-là, mais ce qui risque d'avoir des conséquences, bien sûr, sur la puissance même de l'action de nos forces de défense.
On va en parler tout à l'heure, les conséquences de la reconduction ou de la levée de cet embargo. Mais il y a aussi d'autres positions qui consistaient à proposer, lors des négociations, une levée partielle de cet embargo, c'est-à-dire autoriser la Centrafrique à acquérir certains types d'armes, mais pas de mortiers, par exemple. Vous pensez que les négociations ne pourraient pas aboutir à cette option ?
On verra bien, mais je pense que oui, c'est une option qui reste encore ouverte. Hein. Ça, je peux pas l'affirmer de manière catégorique, mais ça reste quand même une option. Oui, bien sûr, compte tenu du fait que tout ça encore reste un grand secret, donc il y a de fortes chances quand même que ouais, pour avoir cette position intermédiaire. En tout cas, nos diplomates ont travaillé un peu là-dessus, donc il y a de fortes chances que soit cette solution soit aussi retenue.
D'accord.
Je pense, ouais.
Monsieur Sidik Aboubakar Sidik Ali, Monsieur Ndialandine ne semble pas très optimiste. Vous aussi, Monsieur Ali?
Pardon.
Oui. Quel est votre?
Je vous suis.
Oui. Est-ce que vous êtes optimiste ou plutôt pas du tout comme les Monsieur Ndialandine?
Vous savez, c'est depuis 2013 que la RCA, conformément à la résolution 2027 hein, des Nations Unies, est sous l'embargo des armes. Donc, c'est par rapport à des situations que les États membres des Nations Unies ont pris cette décision afin de mettre sous embargo la République centrafricaine. Et de notre côté, nous voyons que cette situation a beaucoup évolué et ça s'est beaucoup amplifié davantage. Donc, la réconduite de ces embargos, c'est probable. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Quand vous dites que la situation a évolué, c'est-à-dire la situation a empiré sur le terrain depuis 2013, parce que les membres de la CIRGL estiment, par exemple, que la réalité d'aujourd'hui n'est plus celle de 2013, et qu'il faudrait lever cet embargo pour permettre au gouvernement centrafricain d'offrir plus de justice à un pays, c'est-à-dire la Centrafrique, entravée par une mesure qui n'est pas en harmonie avec la situation qui prévaut aujourd'hui.
Ça, c'est la diplomatie. Vous savez qu'ils sont dans une position diplomatique qu'ils ne peuvent pas dire tout. Et il y a un nouveau acteur, sans oublier qu'il y a un nouveau acteur qui est sur le terrain pour l'instant et qui commet
des
violations des droits humains, des groupes Wagner. Je ne parle pas de la Fédération de Russie, mais des groupes Wagner, puisque la Russie s'est désengagée pour dire que ce n'est pas lui qui entretenait le groupe Wagner. Donc la situation s'est empirée davantage. Et même, ça a été relaté dans le dernier rapport de juin du groupe des experts par rapport aux violations des droits humanitaires commises par le groupe Wagner.
Mais vous, qui êtes de la rébellion de la CPC, souhaitez-vous ou non une reconduction de cet embargo?
Lorsqu'elle était prise en otage par un groupe de mercenariat, parce que l'embargo consiste quand même à interdire à ce qu'un État puisse entretenir des mercenaires afin de faire des sales besoins, mais ce n'est pas l'État. L'État centrafricain, le gouvernement, a opté pour employer des mercenaires afin
de... Oui, vous ne répondez pas à la question. Donc, si l'embargo est levé, le gouvernement centrafricain pourrait acquérir des armes pour combattre les groupes rebelles en coactif, dont le vôtre. Alors, est-ce que vous êtes favorable ou non à cette levée d'embargo, peut-être pour arriver à ce que vous souhaitez, le départ de ceux que vous appelez des mercenaires?
Nous ne sommes pas favorables à cet embargo. Nous voulons d'abord avoir une solution favorable entre les fils et les filles de la République centrafricaine afin que cet embargo puisse être levé. Ça, si ce n'est pas le cas, l'embargo demeure toujours.
D'accord, la levée de l'embargo est prématurée. Je dois reconnaître que la liaison avec vous est presque un supplice pour nos auditeurs auprès desquels nous nous excusons. On va essayer peut-être de vous recontacter. Vous rappeler pour espérer que cette fois-là, la ligne soit meilleure. Fridolin Ngoulou, pendant qu'il y a cette négociation au niveau du Conseil de sécurité, on ne sait pas ce qui va en sortir. La situation empire sur le terrain. Des attaques ont été signalées le 21 juillet dernier avec mort d'homme, de même que lundi dernier. Comment vivez-vous ces attaques et souhaitez-vous qu'il y ait cette levée d'embargo?
Merci beaucoup, madame. Moi, je pense que sur la question de la levée de l'embargo, je viens là de suivre le débat au niveau du Conseil de sécurité. Effectivement, l'embargo a été déjà reconduit avec juste un assouplissement en ce qui concerne un certain nombre de types d'armes. Mais c'était prévisible tout simplement parce que quand on a vu un peu les réunions à huis clos, les débats qui ont précédé effectivement cette grande rencontre, on savait effectivement qu'il y a une volonté de maintenir le pays dans cet état d'embargo. Mais je pense que tout ce qui se passe actuellement à l'intérieur du pays, les attaques et autres, c'est ce que nous déplorons toujours. Nous déplorons, nous, en tant que professionnels des médias et journalistes, même centrafricains, nous déplorons que depuis plusieurs années, le pays vit encore dans cette situation de crise, alors que l'État est interdit de s'en procurer effectivement des armes pour lutter contre les rebelles. Mais alors que les rebelles sont là, les rebelles sont en train de se procurer tranquillement des armes et sont en train d'opérer au vu aussi de tout le monde.
Donc vous dites qu'officiellement, il y a un embargo sur les armes, mais officieusement, les rebelles parviennent à
s'en procurer. Les rebelles contournent, même tout à l'heure dans les discussions au niveau du Conseil de sécurité, il y a des membres qui ont relevé effectivement cela, que des rebelles sont parfois super armés, plus que l'armée nationale. Mais est-ce que ces rebelles-là trouvent les armes pour combattre les forces nationales.
Et Monsieur Goulou, d'ailleurs, merci beaucoup pour la dernière actualité, parce qu'au moment où nous entrions dans ce studio, on ne savait pas encore quelle était la décision du Conseil de sécurité qui vient donc de tomber, l'assouplissement. Mais est-ce que, malgré tout, cette mesure est une petite avancée, une petite consolation qui va peut-être permettre au gouvernement centrafricain d'acquérir des armes de façon légale et officielle?
Oui. Oui, effectivement, c'est un peu une consolation pour notre gouvernement qui va aussi chercher à avoir des armes de type mortier 60, 80, 120, au même titre que les rebelles. C'est une consolation, mais on avait souhaité plus que ça. La levée totale de l'embargo, parce que la population est fatiguée de la guerre. Tout ce que les rebelles disent, même tout ce que les chefs rebelles disent, le porte-parole vient de le dire. Ça, ce sont des disques qu'on a commencé à écouter depuis 2013. Il faudrait discuter d'abord, avant de voir la question de la levée de l'embargo. Les gens discutent, mais ce dossier-là n'avance toujours pas. Nous ne croyons pas à tout ce que les rebelles disent. Nous ne croyons pas à ce que les rebelles disent depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Les gens ne sont pas sincères, les gens ne respectent pas leurs engagements. Mais on ne va pas dire qu'il faudrait d'abord négocier, tenir un dialogue avant de voir la question de l'embargo, alors que l'État est souverain. L'État est souverain et l'armée doit être à mesure d'avoir tous les moyens possibles pour lutter contre les groupes armés.
Merci beaucoup. On va marquer une petite pause, messieurs, et on va se retrouver. On entendra nos invités, évidemment, dans la suite de cette émission, pour réagir notamment à cette décision qui vient de tomber, le Conseil de sécurité des Nations Unies, et qui a donc décidé de la levée partielle de l'embargo sur les armes qui frappaient la Centrafrique depuis 2013, alors que le pays était en pleine guerre civile. À tout de suite.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies réunis aujourd'hui ont pu surmonter leurs divergences et se mettre d'accord sur les sanctions contre la République centrafricaine. Il a donc été décidé un assouplissement de l'embargo, nous l'apprenons à l'instant. Et nous en débattons ce soir avec nos invités, Fridolin Ngoulou, journaliste et directeur de publication de Ubangi Media, Aboubakar Sidikali, porte-parole du mouvement de mouvement rebelle FPRC de Noureddin Adam et également porte-parole Afrique de la rébellion de la CPC de l'ancien président François Bozizé et Roger Ndialandi, membre du bureau politique du mouvement Cœurs Unis du président Touadéra. Vous êtes également, monsieur Ndialandi, délégué Zone Europe. Comment réagissez-vous à cette décision donc du Conseil de sécurité des Nations Unies?
D'ailleurs, c'est une consolation, hein. Je veux dire, cela va naturellement permettre à l'État de continuer à tenir donc la dragée haute, hein, au groupe armé, parce que face aux difficultés donc d'armement, on a été donc obligé de faire appel à du bilatéral, et donc au fur et à mesure que l'embargo va être levé, enfin du moins assoupli. Nous allons certainement permettre à l'armée nationale de
monter en puissance, les FACA.
Monter en puissance, oui, bien sûr, absolument. Oui, c'est sûr. Voilà.
Donc pour vous, en fait, l'assouplissement permet d'écarter progressivement ces fameux mercenaires russes dont on parle et dont on accuse de beaucoup d'exactions dans votre pays?
Non, pas de les écarter, mais je veux dire que simplement
progressivement.
De faire monter en puissance.
Oui.
De faire monter en puissance. Donc l'idée, c'est pas de les écarter au sens... au sens strict du terme, comme vous l'utilisez. Non, c'est la question simplement.
Mais quel est le but donc de la levée d'embargo? Pourquoi souhaitez-vous la levée d'embargo si c'est pour maintenir encore une forte présence des forces non officielles?
Mais nous ne pouvons pas, naturellement, aussi indéfiniment comme ça laisser l'armée, la force, l'armée, les FACA en état d'affaiblissement. On ne peut pas non plus supplicier donc le bilatéral au national. Donc il n'était pas question de ça non plus. Donc voir lever aller soupir du moins donc l'embargo, c'est un motif de satisfaction, hein, donc d'une montée, hein, donc justement de nos forces.
Qu'est-ce que cela va changer à brève échéance dans la réponse et la lutte contre les groupes armés?
Mais ça va donner un peu de puissance, hein, simplement. De la puissance à notre action, l'action militaire sur le terrain. Ça va être ça. Je veux dire, ça va être clair, hein. On va pas tourner en rond là-dessus, hein. Parce que, la difficulté aussi, c'est que nous avons, en tout cas, les arguments que posent certains, comme la MINUSCA par exemple, c'est de dire que nos forces de défense ne sont pas aujourd'hui en capacité de les aider sur le terrain. Bon. Alors que on sait très bien que même depuis 13 ans, depuis 2013 pardon, ils sont là et qu'il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que voilà. Donc maintenant, si les embargos est partiellement assouplis, moi je pense que c'était un motif pour permettre aux FACA de s'équiper aussi bien en véhicules, etc. Enfin, de donner la possibilité aux FACA de faire face,
d'être plus offensive face aux groupes armés.
La finalité, c'est ça finalement, de pacifier le pays définitivement.
Merci. Monsieur Sidi Kali, comment réagissez-vous à cette mesure d'assouplissement? C'est une mauvaise nouvelle pour vous, j'imagine. Monsieur Ali?
Bon, oui. L'assouplissement, vous savez que tout ça... Oui, je vous écoute.
Oui, allez-y.
L'assouplissement, c'est le réjouissement au niveau du gouvernement. Nous voyons que...
Monsieur Ali, je suis vraiment navré. On va peut-être renoncer à vous laisser participer à cette émission parce que vous nous avez signalé que vous êtes quelque part dans une forêt centrafricaine. Voilà, c'est peut-être pour cela que le réseau est assez difficile et même par WhatsApp, nous n'y arrivons pas. On va peut-être essayer à nouveau dans un instant, mais on ne vous entend pas du tout et pour les auditeurs, c'est vraiment très difficile. Monsieur Goulou, vous m'entendez?
Oui, je vous écoute.
Oui, le représentant du parti au pouvoir, Monsieur Ndialandi, disait que ça va permettre aux FACA de monter en puissance, mais il y a de grandes inquiétudes quant à la sécurisation des armes éventuelles qui vont être acquises. Et c'est l'un des arguments qu'avançaient les opposants, parce qu'ils se disaient, est-ce que... Vu l'état des FACA aujourd'hui et de l'armée centrafricaine, est-ce que le gouvernement est en mesure, est-ce que l'armée et les FACA sont en mesure de sécuriser les armes pour qu'elles ne soient pas volées par des groupes armés, éventuellement volées par des groupes armés encore actifs, pour revenir combattre les civils?
Ok, merci. Moi, je pense qu'il y a, beaucoup d'efforts qui se font sur ce point-là. Mais nous avons aussi constaté que depuis quelques années, la question sur le vol des armes, le détournement des armes, moi, je pense que cela n'est
pas... Y compris parfois par des éléments des FATA revendus aux rebelles.
Oui, oui, mais ça peut exister, mais c'est des cas vraiment très isolés. Mais c'est pas vraiment la raison principale pour priver toute une armée de ses moyens de défense. Moi, j'ai été à Bois où, avec l'ambassadrice de l'Union européenne, avec le président de la République, il y avait eu l'inauguration effectivement d'une armerie à Bois. Il y a aussi en construction. Moi, je pense que sur ce point, ça ne devrait pas beaucoup poser de problèmes. Mais la balle est toujours dans le camp du gouvernement pour faire doubler encore d'efforts afin de répondre aux préoccupations des membres du Conseil de sécurité. Mais prendre juste la question de stockage, de sécurisation, mais tout ce que les gens ont livré à la Centrafrique depuis les assouplissements de l'embargo, moi je pense que les gens font bon usage, les gens utilisent ces armes-là ne sont pas volées à ma connaissance. Donc voilà un peu ce que je peux ajouter sur ce point-là.
Merci. Monsieur Andialandi, cette sécurisation des armes, c'est ce que dans les termes des Nations Unies, on appelle les critères de référence. Comment est-ce que le gouvernement centrafricain compte-t-il s'y prendre pour un bon stockage, un stockage efficace, pas seulement des armes, mais aussi des munitions qui pourront être acquises grâce à cette levée partielle?
Mais l'effort est en cours. Je veux dire que nous avons pris acte de ce certain nombre de rapports qui disaient qu'il y avait des désertions, manque de formation, disparition des armes, etc., pour tenter de justifier le fait de maintenir l'embargo. Et bon, il se trouve que la solution passe aussi par la construction de notre institution de défense et de sécurité. Et cette construction, à la fois la construction, mais à la fois la gouvernance. Et donc, c'est la question de gouvernance, c'est la question que vous venez de soulever, c'est la question de la gouvernance de cette institution-là. Les efforts sont en cours. Nous avons fait des efforts. Et puis, M. Ngoulou vient de relever quand même que depuis que nous sommes dotés en équipement, il n'a pas eu de vol d'armes, il n'y a pas eu, etc., ces questions-là. Et donc, ces arguments-là qui sont avancés régulièrement pour tenter de retarder donc la levée de l'embargo, et s'ajoutent aujourd'hui encore, nous constatons qu'on est en train d'évoluer vers des questions de droits de l'homme pour tenter encore de prolonger l'embargo, parce que c'est ça le débat aujourd'hui. Le débat évolue en fait, depuis la question de violation, depuis la question de...
Mais est-ce que... Donc,
on va arriver aujourd'hui, pardon ?
Oui, la question des droits de l'homme n'est-elle pas réelle ? Il y a eu des rapports onusiens et puis des enquêtes indépendantes de médias aussi mettant en lumière ces violations des droits de l'homme.
Oui, effectivement, mais je veux dire que c'est une préoccupation du chef de l'État, parce que c'est pas que la préoccupation des institutions qui viennent faire des rapports. La question des droits de l'homme est une préoccupation nationale et au plus haut niveau du président de la République. J'en ai discuté plus tard que lundi dernier, madame. Lundi dernier, en face à face avec le chef de l'État. Il m'a dit que cette question, c'est une préoccupation pour lui. Lundi dernier, à Paris. Avant qu'il prenne l'avion pour rentrer à Bangui. On en a parlé. Donc, je veux dire que c'est une préoccupation du chef de l'État. Donc, la question de droits de l'homme n'est pas étrangère au chef de l'État. Donc, il est très conscient de la question et il veille sérieusement.
D'accord. Pour revenir à ma question, donc vous assurez que tout a été mis en place ou tout sera mis en place pour que ces armes-là ne se retrouvent pas là où elles ne devraient pas et se retournent contre les civils à travers des groupes armés éventuellement ?
Non, nous sommes toutes les dispositions, en tout cas les dispositions sont prises aujourd'hui pour une gouvernance durable. Donc la question ne se pose pas à ce terme, les questions ne se posent pas, madame. Il y a une gouvernance durable, c'est une préoccupation du gouvernement centrafricain aujourd'hui pour que les armes soient gouvernées de manière convenue.
Merci. Voilà, on va à nouveau essayer d'entendre Aboubacar Sidi Kali, porte-parole de Afrique de la rébellion de la CPC, de l'ancien président François Bozizé. Monsieur Sidi Kali, vous m'entendez ? Allô, monsieur Ali ?
Je vous suis.
Voilà, donc allons-y, on va essayer.
Oui, je suis en ligne.
Voilà, donc finalement, donc, cet embargo a été levé partiellement. Est-ce que, au regard de cette nouvelle situation, comment comptez-vous vous organiser pour y répondre, puisque l'armée centrafricaine devrait en principe acquérir de nouvelles armes ? Est-ce que vous aussi, vous allez renforcer votre dispositif militaire ou d'armement ?
Mais c'est
ce sont les gens qui disent que les Wakas ne sont pas dotés, ne sont pas bien dotés. Ils ont tous les armées, ils ont les véhicules tout terrain qui opèrent avec le groupe Wagner ensemble sur le terrain. Nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les mêmes armes qu'ils utilisent, nous également nous utilisons.
Donc, et justement, comment arrivez-vous à avoir des armes alors qu'il y a l'embargo?
Nous sommes une rébellion qui a pris le pouvoir. Et les armes qui étaient à la poudrière, nous avons récupéré pour revenir avec la fin des...
Donc vous avez volé les armes des FACA, des forces armées centrafricaines? Une partie?
Voler, c'est-à-dire parce que celui qui est censé protéger n'est pas là, et que le vainqueur, tu vas penser là.
C'est vraiment dommage, M. Ali. Je suis vraiment, vraiment désolé. Vraiment, je suis vraiment navré. On va devoir peut-être arrêter la conversation avec vous parce que là où vous vous trouvez, c'est sans doute difficile d'avoir la liaison à meilleure qualité. Donc, on va devoir arrêter cette conversation. Nous sommes désolés, M. Ali, de porte-parole donc, du mouvement de Mounoureddine Adam et de la CPC, la rébellion présidée par François Bozizé, l'ancien président centrafricain. Je reviens vers vous, M. Ngoulou, pour parler de ce qui a précédé cette décision du Conseil ou ce vote du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a vu que la CIRGL a été beaucoup plus offensive et claire dans sa position pour demander la levée d'embargo, mais pas la CEAC. Est-ce qu'il y a un problème à quoi cela est dû? Est-ce qu'il y aurait un problème de communication entre cet organisme sous-régional et les autorités centrafricaines? Comment l'expliquez-vous?
Merci. Moi, je ne peux pas expliquer si effectivement il y a un problème entre le gouvernement et la CAC. L'autorité qui représente le gouvernement peut-être sera à mesure de le dire, mais moi j'ai juste constaté que depuis un certain temps, cette relation-là n'est pas au beau fixe, parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de manifestations contre la CAC à Bangui, et nous avons vu aussi que les Centrafricains ont beaucoup plus critiqué le fait que la CAC avait lancé d'une manière unilatérale, c'est ce qu'on nous a fait savoir, Des négociations avec les rebelles de la CPC, alors que le gouvernement n'était pas...
N'était pas informé.
Le gouvernement n'était pas disposé, bien informé. Voilà, c'est un peu ça que les Centrafricains ont désapprouvé un peu la CAC ici en Centrafrique. Mais je ne peux pas dire que c'est cette même relation-là qui existe entre le gouvernement et la CAC. Mais juste au niveau de la population, nous avons constaté, les médias en ont parlé suffisamment, juste le fait de chercher à rencontrer les chefs rebelles pour discuter avec les chefs rebelles, alors que la position au niveau du gouvernement consiste à ne pas discuter avec ceux qui ont pris des armes pour faire du mal à la population.
Merci.
Donc, ça pourrait être la suite logique de cette position-là qui s'est aussi affichée lors des négociations pour la levée de l'embargo.
Merci. On va laisser peut-être une minute à M. Adjalandi. Que se passe-t-il entre Bangui et l'organisation sous-régionale?
Bon, mais c'est un peu ce que vient d'expliquer Ngoulou, hein, je crois. Ça vient. La CES a toujours cherché à négocier avec le groupe armé. Toujours négocier. Depuis, on est surpris d'apprendre que tel pays africain prend cette initiative pour discuter avec le groupe armé, demande à ce que le groupe armé.
Mais est-ce que cette tentative n'est pas de bonne foi que la CEAC essaye de le faire? Est-ce que vous pensez que c'est forcément pour faire du mal, éventuellement, si je peux m'exprimer ainsi, au gouvernement centrafricain?
Non, ça peut être de bonne foi, mais bon, je veux dire que le niveau de la méthode, ça pose quand même certains problèmes, quoi. Bon, maintenant, je ne doute pas, hein, ça peut se faire de bonne foi, mais bon, ce sont quand même nos voisins immédiats. Je veux dire, donc, dans ces questions-là, on les traite quand même avec un peu de circonspection. On ne les voit pas comme ça de manière très rapide, parce qu'on serait de bonne foi. C'est-à-dire que c'est ça le problème. Et donc, ça se ressent, c'est la relation, ça se ressent. La population ressent le problème aussi, et que ça jette une suspicion. Hein. Je veux dire, je ne peux pas vous dire autrement. Hein.
On va voir dans la suite de ces débats, lors de la conclusion, les conséquences aussi de ces relations difficiles avec la CEAC. Comment cela peut avoir une incidence, peut-être, sur la lutte contre des groupes armés. À tout de suite.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous débattons ce soir de la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a donc voté en faveur de la levée partielle de l'embargo sur les armes qui pesaient sur la Centrafrique. Et c'est avec Fridolin Ngoulou, journaliste et directeur de publication de Ubangi Media à Bangui et ici en France avec nous, Roger Andialandi, membre du bureau politique du MCU, le parti au pouvoir en Centrafrique. Et nous avons finalement renoncé à poursuivre notre échange avec Aboubacar Sidi Kali, porte-parole Afrique de la rébellion de la CPC, de l'ancien président François Bozizé, à cause de la mauvaise qualité de la liaison téléphonique avec l'endroit où il se trouve. Il nous a dit dans une brousse, quelque part en Centrafrique. Et nous allons continuer donc avec vous, M. Andialandi, à parler des conséquences éventuelles de ces mauvaises relations avec vos voisins, qui s'est illustré par la position de la CEAC sur la question de la levée d'embargo sur les armes. Même avec les meilleures armes de dernier cri, si vous n'arrivez pas à vous entendre avec vos voisins, est-ce que cela ne pourrait pas porter préjudice à votre lutte contre les groupes armés qui pourraient facilement utiliser ces voisins comme base arrière ?
Non, mais on s'entend avec nos voisins. Hein. Je veux dire, c'est pas la question. C'est sur cette question, sur certaines initiatives qui sont prises, mais sinon de.
Mais le fait de n'avoir pas soutenu comme la CIRGL la levée de l'embargo ne peut-il pas laisser penser que en fait certains pays de la CEAC sont plutôt proches de la rébellion? On a vu l'incident avec le Tchad récemment.
Oui, on peut penser cela. On peut valablement penser cela, mais bon, ça. C'est la discussion avec la relation avec nos voisins sont nous. Souhaitons avoir de très bonnes relations avec nos voisins, mais il se trouve quand même qu'il y a certaines difficultés avec certains pays, ça c'est évident. Vous venez donc de relever, hein, on a accusé à tort ou à raison certains pays voisins de connivence, hein, à un moment donné. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est ainsi, mais bon, nous faisons l'effort justement d'avoir de très bonnes relations avec nos voisins. Voilà, je pense que c'est ça l'idée du président, donc. Il n'y a pas à aller plus loin que ça. Voilà. Nous avons de très bonnes relations. Nous souhaitons avoir de très bonnes relations avec nos voisins pour nous permettre aussi, en passage, de régler de manière définitive la crise qui perdure en Centrafrique, parce qu'il n'est pas question qu'on puisse constituer comme ça un foyer de tension permanente. Parce que c'est pas dans la
situation. Mais qu'est-ce que vous comptez faire après cette phase aux Nations Unies, au Conseil de sécurité?
Vis-à-vis de nos voisins, vous voulez dire?
Oui.
Non, naturellement, on va essayer de comprendre, avoir la bonne compréhension de leur position. Je crois que ça relèvera de la diplomatie. Hein. Nous allons certainement faire des efforts pour essayer d'aller chercher la bonne compréhension de leur attitude, de leur position, pour nous permettre éventuellement d'avancer ensemble pour nous permettre au pays de retrouver la quiétude qu'il a droit.
Monsieur Ngoulou, en attendant d'en savoir un peu plus sur ce que contient cette levée partielle décidée donc par le Conseil de sécurité des Nations Unies, on sait que cette décision est également prise au moment où on parle de dialogue en Centrafrique. Est-ce que finalement la possibilité que la Centrafrique a aujourd'hui d'acquérir un peu plus d'armes ne risque pas de mettre le gouvernement dans une position qui pour dire, par exemple, on est plus pressé d'aller vers ce dialogue, vers cette solution, ce règlement politique de la crise?
Moi, je pense que la résolution de la crise centrafricaine doit nécessairement passer aussi par le dialogue, mais cela n'exclut pas effectivement le passage en force pour régler un certain nombre de problèmes dans la mesure où les groupes armés ne respectent pas aussi leurs engagements. Et moi, je pense que c'est depuis l'année dernière qu'on entend parler de dialogue, et le gouvernement en train de préparer le dialogue. Nous sommes impatients aussi de voir les positions se dégagent, le gouvernement ne veut pas de la participation des rebelles dans ce dialogue, surtout ceux qui tiennent encore les armes. Nous, en tant que médias, nous on observe toujours, mais on souhaite à ce que ces deux solutions-là puissent aboutir effectivement au retour de la paix dans le pays. Si on doit utiliser la force pour rétablir l'autorité de l'État et ramener la paix dans le pays, ça, c'est pas un problème. Si on doit aussi utiliser la voie du dialogue pour ramener la paix dans le pays, moi je pense que ces deux solutions-là sont vraiment étroitement liées pour chercher à ramener la paix dans le pays.
Merci. Monsieur Andialandi, encore une question sur cette perspective d'acquisition d'armes par le gouvernement centrafricain. Est-ce que vous pensez que cela pourrait mettre une pression même psychologique sur les groupes rebelles encore actifs d'aller vers les discussions en se disant « nous risquons d'être davantage la cible de l'armée centrafricaine ?»
Oui, c'est possible, hein, parce que ils sauront très vite qu'il y a une contrainte, hein, qui va être, en tout cas, la puissance même de la contrainte va être telle qu'ils seront aussi à un moment donné obligés de négocier. Mais nous espérons qu'ils vont certainement comprendre le sens de tout cela, et puis comprendre aussi la démarche du gouvernement et du président de la République, qui était une démarche de négociation, puisque le président a toujours fait montre de ça. Et même là encore, il a un dialogue républicain qui est en cours, qui va se préparer. Et donc, je veux dire que le dialogue n'a jamais quitté l'esprit, hein, du président et du gouvernement. Donc, la porte reste ouverte, mais nous ne pouvons pas non plus le subir indéfiniment.
Mais, d'accord. Mais qui allez-vous vous tourner pour acquérir ces armes, je le dis sous réserve, évidemment, de connaître ce que contient cette levée partielle d'embargo? Quel type d'armes vous êtes autorisé à acheter? C'est vers le partenaire russe que vous allez vous tourner pour acquérir éventuellement ces armes?
Pas de manière définitive une idée donc des besoins en tant que tel, ça relève de l'état-major, mais je pense que on fera une demande, hein, et puis on verra très bien comment la communauté internationale va réagir, hein, du moins. Moi je pense qu'il n'y a pas de partenaire titré ou ciblé aujourd'hui.
Et avez-vous le budget pour cela? Ça fait des années, quelques années que le gouvernement centrafricain demande la levée d'embargo. Est-ce que cela veut dire que vous avez préparé un budget pour aussitôt acheter les équipements militaires pour renforcer les FACA aussitôt que vous obtiendrez cette levée?
Bon, oui, on va l'intégrer. Je crois que ça a été intégré dans nos dépenses, hein, bien sûr. On va intégrer ça et puis on verra très bien. Il y a un réajustement au niveau finance qui va se faire, parce qu'on peut pas non plus demander la levée de l'embargo et puis pour la beauté, quoi. Je veux dire la levée, non. Je crois que c'est aussi pour nous permettre de nous acquérir de ces armes-là. Donc forcément, nous sommes le gouvernement et à même d'acquérir des armes, bien sûr.
Merci. Pour terminer avec vous, M. Goulou, quel est votre espoir après cette décision donc, du Conseil de sécurité des Nations Unies?
Merci beaucoup. Mon espoir, c'est de voir effectivement l'armée centrafricaine monter en puissance et avoir aussi à peu près les mêmes capacités que les rebelles ont pour faire face à des éventualités.
Parce que pour vous, il y avait clairement eu un déséquilibre.
Il y avait un déséquilibre total, tout simplement parce que les rebelles sont super armés et l'armée nationale est privée aussi de ses moyens. Donc ça permettra aussi à l'armée de monter en puissance.
Mais le représentant, le porte-parole de la rébellion semblait démentir cela. Il semblait dire que c'est faux, que l'armée a des équipements, des véhicules, même si on l'entendait pas bien.
Oui, madame. Oui, c'est le propre, effectivement, des rebelles. Nous, on a des journalistes, on a parcouru pas mal de vies de l'intérieur du pays. On a vu au moins la capacité des rebelles. Il y avait quelques années, un qui a organisé un reportage avec des médias internationaux pour visualiser un peu sa capacité de mise en. Tout ça, là,
pour afficher son arsenal.
Voilà, pour afficher son arsenal. Bon, là, ce n'est pas nier que les rebelles ont une grande capacité. Et ce moment de silence, on ne sait jamais s'ils sont en train de se reconquérir, ils sont en train de se reconstituer pour avoir une capacité encore plus forte de nuisance.
Merci. Merci beaucoup.
On ne va pas toujours croire à ce que les rebelles disent. Ouais.
Merci beaucoup, Fridolin Ngoulou, journaliste, directeur de publication de Ubangi Média à Bangui. Merci à Aboubakar Sidikali, porte-parole Afrique de la rébellion de la CPC de l'ancien président François Bozizé, et à Roger Andialandi, membre du bureau politique de MCU, du président Touadéra et délégué Zone Europe, d'avoir participé à ce débat. Merci de votre attention. Bonsoir.